Hébreux, chapitre 4. Prêché le 1er septembre 1957, un dimanche soir, au Branham Tabernacle, Jeffersonville, Indiana, USA. Et de savoir plus concernant notre Seigneur béni. Et c'est pour cela que nous nous rassemblons ici. C'est pour cela. Et maintenant, et pour prier pour les enfants de Dieu malades. Et ce matin, nous avons eu une magnifique bénédiction des Écritures. Nous essayons de prendre dans chaque service une partie de... J'enseigne sur le livre des Hébreux. Je le fais depuis les deux dernières semaines maintenant. Et maintenant, si le Seigneur le veut, nous continuerons mercredi soir, puis dimanche matin et dimanche soir, continuant pour aussi longtemps que je suis ici pour cette fois. Pas un réveil, mais c'est un réveil, une réunion dans nos soirées régulières. Et ainsi, nous sommes très très heureux d'avoir ce moment pour rencontrer nos bons amis des villes alentours, des environs des Fall Cities ici. Et s'il nous arrivait de devoir avoir une annulation ou quelque chose, cela pourrait être que le Seigneur pourrait nous conduire très bientôt à... Peut-être que nous pourrions avoir quelques soirées, peut-être dans une salle de gymnastique ou quelque chose. Après un certain temps, si le Seigneur semble nous conduire de cette façon à un endroit où nous pourrions avoir tout notre monde ensemble. Et nous voyons des personnes qui sont venues et qui sont reparties disant « Il n'y avait plus de place pour entrer ». Car le tabernacle est affreusement petit. Seulement très très peu de personnes peuvent y prendre place. Et nous sommes si contents que vous soyez d'accord de sortir et de vous asseoir ici dans la chaleur pour écouter la parole du Seigneur. Et nous prions que Dieu vous bénira excessivement et abondamment et vous aidera. Et maintenant, ce soir, nous commençons au quatrième chapitre. Combien était-il là ce matin ? Faites-moi voir vos mains. Oh, c'est merveilleux, pratiquement tout le monde. Et nous sommes sur, commençant au quatrième chapitre du livre des Hébreux. Eh, oh, quel livre merveilleux! Y prenez-vous du plaisir? Et cela se compare écriture par écriture. Et Paul, avant de vouloir témoigner de son expérience, il dut d'abord aller en Arabie et trouver par la parole si c'était la vérité. J'aime cela. Et la leçon de ce matin, nous avons trouvé dans la leçon de ce matin que Christ est le même, hier, aujourd'hui et pour toujours. Et Paul a trouvé que la même colonne de feu qui conduisit les enfants d'Israël l'avait rencontré sur le chemin de Damas. Nous avons trouvé que la colonne de feu qui conduisit les enfants d'Israël du désert à la terre promise, rencontra Paul sur le chemin de Damas et s'appela lui-même Jésus. Alors, nous trouvons la réelle et suprême divinité de Jésus-Christ. Le livre entier ici est seulement une révélation de Jésus-Christ. Et il vint. Nous trouvons que... Autrefois, et de plusieurs manières, Dieu a parlé à nos pères par les prophètes, mais dans les derniers jours par son Fils, Jésus-Christ. Il s'est révélé, et le livre de la Genèse à l'Apocalypse n'est rien d'autre qu'une constante et perpétuelle révélation du Seigneur Jésus. Et nous trouvons qu'il était celui qui était dans le buisson ardent. Nous découvrons qu'il était celui qui était avec Dieu avant la fondation du monde. Et nous trouvons que dans le Nouveau Testament, il était Dieu et homme tout à la fois. Et alors, quand il quitta le Nouveau Testament pour aller au ciel, il dit, « Je vins de Dieu et je retourne à Dieu. » Et alors, quand Paul le rencontra, il était dans la même forme qu'il était quand il conduisit Israël. Une colonne de feu. Et Paul le regarda juste en face, n'étant pas converti. Et cela lui coûta d'avoir des ennuis avec ses yeux pour le restant de ses jours. Il devint aveugle, et pour plusieurs jours, il ne pouvait rien voir du tout. Il dut être conduit dans une rue appelée la Droite. Et Dieu avait un prophète là-bas, à qui il parla, du nom d'Ananias, qui vint par une vision, et imposa ses mains à Paul, et dit, « Frère Saul, reçois la vue !» Et nous trouvons que ce même Saint-Esprit, ce même Seigneur Jésus vint à Pierre dans une forme de lumière et le sauva de la prison. Et nous trouvons que ce même Seigneur Jésus, de ces jours-là, est toujours dans cette colonne de feu, lumière, qui conduit son peuple, son Église, accomplissant les mêmes choses, donnant des visions. Il vient impose les mains sur les gens par une vision. Le Seigneur Jésus qui nous a rencontrés dimanche matin passé à la maison et qui a dit « Il y a un homme qui viendra, la tête noire, grisonnant, c'est un grec, sa femme est entre deux âges et pleurera à l'autel. » Quelques-uns l'avaient dit et savaient que cela arriverait. Ils étaient tous les deux estropiés. Le nerf de l'équilibre dans sa tête était fichu. Il n'avait même pas le contrôle de ses pieds ou de ses membres et il était aveugle. Et pour avoir une double preuve, j'eus d'abord une petite dame, tout d'abord, pour venir prier pour les malades. Puis, je suis retourné et j'eus frère Thoms pour venir prier. Et nous, assis ici, observant le développement. Et alors, je descendis et priais pour les malades. Et je m'en retournais. Elle vint, juste exactement en accord avec la vision. Elle me prit par le bras et commença de pleurer. Elle dit que le docteur Ackermann les avait envoyés ici. Le docteur Ackermann est un de mes amis intimes, un catholique. Son garçon est un prêtre dans un monastère à Saint-Menrad, là en bas en Indiana, et cet homme était de Jasper, et le Seigneur le guérit hors de cette chaise. Il se leva, il marcha, il pouvait voir aussi bien que n'importe qui d'autre, et il marcha hors de l'édifice normal et entier, tout par une vision. Frère Saul, le Seigneur Jésus qui t'apparut sur le chemin, m'a envoyé pour que je puisse t'imposer mes mains, afin que tu puisses recevoir ta vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Formidable. Alors, nous trouvons, voyant que nous avons ce grand salut, nous ne devrions pas, nous ne pourrions pas échapper aux punitions et à la colère de Dieu si nous négligeons un si grand salut. Maintenant, nous allons commencer de lire ce soir et commencer au quatrième chapitre de l'Épître des Hébreux. Si quelqu'un veut suivre, nous avons quelques Bibles ici. S'ils en veulent une, un des huissiers vous en portera une. Vous voulez-vous lever votre main? C'est Bible. Si un des frères ici veut prendre, il y a deux Bibles posées ici, je crois. Et maintenant, nous allons nous dépêcher, parce que nous avons la communion dans un moment. Et nous reprendrons mercredi soir, là où nous nous arrêterons ce soir. Maintenant, je crois, ce matin, dans notre lecture, nous avons commencé au 15e verset. Quelqu'un peut ne pas me connaître. Mettant des lunettes pour lire, je deviens vieux et je peux toujours lire, mais je ne peux pas le saisir rapidement, spécialement quand j'ai une fine lecture ici, de fin caractère. Et je suis allé faire examiner mes yeux pour voir si je perdais vraiment ma vue. Mes yeux étaient 10-10, il dit. Mais vous avez passé les 40 ans, fils. Et il y avait une chose que je devais lire, il dit, commencez de lire cela, et je le lis. Et je continuais à me rapprocher, ça devint plus lent et plus lent, et ça devint à peu près comme cela, j'arrêtais. Alors il mit sur cela, sur 10-10, et je pouvais le lire n'importe où, mais il dit, ce qu'il y a quand vous avez passé les 40 ans, vos prunelles s'aplatissent. Maintenant, je peux loucher des yeux et lire cela tout près de moi, mais vous devez loucher. Ainsi, il me fit simplement une paire de lunettes. Je peux ainsi voir partout si c'est vraiment près de moi. Maintenant, quand cela va loin de moi, je ne peux rien voir avec ces choses. Mais quand je lis cela avec les lunettes. Bien, maintenant ce matin, nous avions la dernière partie du 3e chapitre des Hébreux. Et, oh, ce que nous y trouvons, un fond riche. Maintenant, écoutez, je veux le lire de nouveau, afin que nous puissions y trouver un arrière-plan maintenant. Et ne pas parler sur cela, mais simplement passer sur cela un tout petit peu. Pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous écoutez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Quels furent ceux, ils entendirent la parole. Quand ils entendirent la parole, provoquèrent, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse. Maintenant, ce matin-là, nous trouvons qu'il a dit « N'endurcissez pas vos cœurs maintenant, comme dans les jours de la provocation. » C'est quand ils provoquèrent la colère de Dieu, parce qu'il leur avait donné Moïse, son prophète, et un signe qui était avec Moïse. Combien savent de la classe ce soir ce qu'était ce signe? La colonne de feu, Hébreux 13. Maintenant, nous ne savons pas si la congrégation vit ce signe ou non, mais Moïse le vit, car Moïse le rencontra premièrement dans un buisson ardent. Il était un feu, et les enfants d'Israël obéirent à Moïse et quittèrent l'Égypte. Et aussitôt qu'ils quittèrent l'Égypte, nous découvrons que Dieu les conduisit directement dans une trappe. L'armée de Pharaon derrière eux, la mer Rouge de chaque côté, et Dieu les mit à l'épreuve. Et ils eurent peur. Et cela provoqua Dieu. Il dit, « Pourquoi criez-vous à moi ?» Il dit, « Parle seulement et avancez. J'aime cela. » Maintenant, ils suivaient Moïse comme Moïse suivait la colonne et la nuée. Et ils étaient en chemin vers la terre promise. Une image magnifique de l'Église ce soir, sur notre chemin vers la terre promise, conduit par le même esprit, les mêmes signes et prodiges dont Dieu a parlé. Maintenant, notez alors, ils vinrent au désert du péché. Les eaux étaient amères, Mara. Pourquoi Dieu les a-t-il conduits vers des eaux amères? Il semble qu'il aurait dû les amener vers de bonnes eaux, mais il les conduisit vers des eaux amères, afin qu'ils puissent éprouver leur foi. Il aime le faire. Il aime laisser des tribulations venir sur vous. Cela montre qu'il peut vous montrer son amour et sa puissance. Comment est-ce que les gens aujourd'hui, qui ne peuvent pas croire à l'œuvre miraculeuse de Dieu, quand viennent les tribulations, ils laissent tout tomber? Et il continue. Mais nous croyons cela. Dieu œuvre dans des miracles. Il ne peut. Dieu a. Écoutez ceci. Si Dieu ne fait pas la même chose, quand les mêmes circonstances se produisent, alors Dieu est coupable d'être partiel avec son peuple. La souveraineté de Dieu lui demande de faire dans chaque cas comme il fit dans le premier cas, ou alors il avait tort quand il œuvra dans le premier cas. Si Dieu n'agit pas de la même manière qu'il le fit dans le premier cas, s'il agit différemment dans le deuxième cas, alors il a mal agi quand il a agi dans le premier cas. Si Dieu a guéri les malades dans l'Ancien Testament, il doit le faire dans le Nouveau Testament. Et aujourd'hui, ou alors il a mal agi quand il les guérit là-bas en arrière, il doit agir de la même manière toutes les fois. Et il le fera quand la même foi rencontre la condition. La faute est à nous, pas à Dieu, car nous le voyons sur quel, et beaucoup ont fait de grands, éminents miracles. Nous le savons, la critique ne peut pas dire, ce n'est pas comme cela, car nous le voyons le prouver, et le voici. Ils avaient l'habitude de dire, montre-moi un miracle. Ils ne peuvent plus dire cela, la science ne peut plus le dire. Nous pouvons absolument prouver au monde scientifique, et le monde scientifique a témoigné qu'un être surnaturel, dans la forme d'une colonne de feu, est avec nous. Voici sa photo, juste ici, sur la paroi. Et une de ses photos est suspendue à Washington, D.C., ce soir. C'est le même Christ. Ainsi, comme une fois, mes frères dans le ministère me disaient, « Oh, frère Branham, c'est le diable, ne touche pas à cela !» Il m'avait fait peur, et je ne voulais pas le prêcher, jusqu'à ce que Dieu vienne et qu'il me le révèle. Que c'est le même Jésus, le même. Oh, alors essayez de le secouer hors de moi, cela ne peut pas se faire, car c'est l'Écriture, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas seulement une expérience branlante, c'est une expérience qui est appuyée par la parole de Dieu et la promesse bénie du Dieu éternel. Maintenant, nous notons ici, alors qui l'a dit? Car certains, après avoir entendu, provoquèrent. Certainement, ils devenaient las chaque fois qu'ils arrivaient à un endroit où ils devaient en venir au fait. Alors que faisaient-ils? Ils voulaient se libérer et ils devenaient las, ils voulaient s'en retourner. Et pourquoi ça m'est-il arrivé? Chose étrange, ce matin, après avoir prêché aussi dur que je le pouvais, beaucoup vinrent à l'autel et demandèrent, pourquoi ceci m'est-il arrivé? Vous voyez comment cela va? Cela passe au-dessus de la tête des gens. C'est simplement les mêmes gens. Jésus a dit, « Vous avez des yeux, mais ne pouvez pas voir. » Il dit cela aux disciples. Ils dirent, « Maintenant que tu parles clairement, maintenant nous croyons. Aucun homme ne doit te dire quoi que ce soit, car Dieu te le montre. Il dit, croyez-vous maintenant, après tout ce temps, vous voyez, vous ne devez rien questionner de Dieu, car les pas des justes sont ordonnés du Seigneur, et chaque épreuve est mise sur vous pour vous éprouver. Et la Bible dit, ils te sont plus précieux que de l'or. Ainsi, si Dieu laisse quelques petites afflictions vous arriver, rappelez-vous, c'est pour votre correction. Chaque fils qui vient à Dieu doit d'abord être châtié de Dieu, et testé, essayé, élevé comme un enfant. Il n'y a pas d'exception. Chaque fils qui vient, et ses afflictions sont données ou apportées pour voir quelle attitude vous prendrez. Vous voyez, c'est Dieu sur ce terrain d'épreuve. C'est tout ce que la terre est. C'est un terrain d'épreuve où il essaye de vous éprouver. Écoutez maintenant, comme nous avançons, et je veux prendre la dernière partie de celui-ci. Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos? Maintenant, voilà où nous en arrivons ce soir. Dans son repos, sinon à ceux qui ne croyaient pas. Ainsi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Maintenant, qu'est-ce que le péché? L'incrédulité. Dieu était venu à eux dans une colonne de feu, envoya son prophète, éloignit, lui donna des signes à faire devant le peuple. Et alors, la colonne de feu par le prophète les en a sortis. À chaque circonstance qu'ils traversaient, ils commencèrent de murmurer, de dire chaque faute qu'ils trouvèrent en Moïse. Ils commencèrent de gronder, de murmurer contre lui. Et Dieu fut mécontent, car il dit, ils péchaient. Ils auraient dû écouter. Mais au lieu de cela, ils écoutèrent la raison. Comment cela peut-il se faire? Comment ces choses peuvent-elles être? S'il est Dieu, tout est possible. Et il fera en sorte que toutes choses œuvrent ensemble pour le bien de ceux qu'il aime. Maintenant, nous allons dans une grande étude ici. C'est sur le repos, le sabbat. Maintenant, ils étaient des pèlerins dans leur voyage. Vous voyez, ils avaient été en Égypte 400 ans en esclavage. Et maintenant, ils en sortaient par les miracles de Dieu en accord avec sa promesse. Ils étaient en route vers la terre promise. Et ici, une lumière surnaturelle apparut au milieu d'eux et commença de les conduire. Maintenant, il y en a qui disaient, « Maintenant, regarde ici, qui est-ce Moïse? Qui t'a fait souverain au-dessus de nous? N'es-tu pas l'un des nôtres? Qui t'a mis ici pour être notre chef? Tu crois que tu en connais plus que notre pasteur? Tu crois que tu en connais plus que notre prêtre? Tu crois que tu es plus malin que nos hommes religieux le sont en ce jour ?» Cela n'avait rien à voir à faire avec cela. C'était Dieu, dans la colonne de feu, revendiquant qu'il était en route. Cela ne faisait aucune différence, qui était intelligent et qui ne l'était pas. C'était l'idée de suivre ce que Dieu mit devant eux. Mais Moïse, au point de vue physique, il fit une chose insensée quand il essaya de délivrer les enfants par la parole de Dieu, emmenant une bande de personnes dans le désert quand il avait son... Il était l'héritier de tout ce qu'ils avaient. Il avait toutes les armées qu'il y avait dans tout le monde. Un coup, et là il était un grand général militaire. Et la prochaine manœuvre, il serait devenu le roi, le pharaon de l'Égypte. Il aurait pu simplement descendre du trône et dire, « Très bien les enfants, allez-vous-en maintenant à la maison. » Tout était réglé, il était pharaon. Mais Moïse, oh le voici, Moïse, par la foi, il vit la promesse de Dieu. Et l'ange du Seigneur vint à lui, et il sut plus sur Dieu en 5 minutes, dans la présence de cet ange qu'il n'apprit pendant 40 ans avec les enseignants de l'Égypte. Il savait qui il était. Il avait vu le surnaturel se produire. Il dit, « Je serai avec toi, Moïse, j'irai devant toi. » Et il comprit, et il lui donna des signes à accomplir. Maintenant, ils étaient en route vers la terre du repos. Dieu leur donnait un repos, un endroit où ils devraient être, veillant sur eux pour les conduire, pour les faire faire des choses. Quelle magnifique image c'est aujourd'hui! Quand nous regardons à l'Église, nous voyons l'Église dans sa condition. Chaque homme qui est né de l'Esprit de Dieu méprise le monde. Car si vous aimez le monde et les choses du monde, l'amour de Dieu n'est même pas en vous. C'est ce que la Bible dit. Et le vrai pèlerin sur sa route, simplement, il déteste les choses du monde. Il déteste voir des hommes boire. Il déteste voir des hommes fumer. Il déteste voir des hommes dans la rue avec ses... des femmes dans la rue avec ces sales petits vieux vêtements. Il déteste voir des parties de cartes et des lotos. Et hier, quand frère Tony ou frère Wood et moi-même marchions dans la rue, et d'autres, certains des hommes, il y avait une petite dame là-bas à Louisville qui descendait la rue, une très jolie petite femme avec des habits affreux sur cela, juste un peu plus haut que les hanches, et un petit ruban attaché sur chaque côté de ses hanches, et un petit morceau de tissu devant elle, et attaché avec une ficelle derrière, descend dans la rue, horriblement, et chaque homme dans la rue la regardant, je dis, elle ne réalise pas qu'elle est coupable devant Dieu de commettre l'adultère avec chaque homme qui la regarde de cette manière. Elle répondra au jour du jugement de commettre adultère avec ses hommes. Jésus dit, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. C'est juste. Ainsi vous voyez, frère Wood me dit, quelle est votre opinion sur cela, frère Branham? Je dis, c'est soit de la déficience mentale ou la possession du diable. Il y a seulement deux choses qui peuvent le faire. Une femme propre et décente ne portera pas ces choses à moins qu'elle ne soit possédée du diable. C'est exactement la vérité. Maintenant, un pèlerin qui est en route vers le ciel, il vit dans une atmosphère différente. Vous n'avez pas à vous faire de soucis s'il va la regarder. Il tournera sa tête s'il a Dieu dans son cœur. Car il vit dans une atmosphère qui est à 1 000 000 de ces choses. C'est juste. Vous ne voulez pas être coupable de ces choses au jugement. Ainsi, il tourne sa tête et il dit, « Oh Dieu, aie pitié de cette femme !» Et il continue, « Nous sommes en voyage, nous sommes en chemin vers la terre de Canaan, nous sommes en chemin vers ce repos béni et éternel que Dieu nous a donné. Et dans le voyage, nous sommes tentés de toutes sortes de choses, mais alors, soyez tentés sans péché. » Maintenant, notez, comme nous allons au 4e chapitre. Craignons donc, tant que la promesse d'entrer dans son repos subsiste. Je veux que vous vous rappeliez cela, à moins que nous trouvions, à moins que Dieu nous le révèle. Qu'importe combien nous allons à l'église, cela n'a rien du tout à faire avec cela. Dieu doit venir par la révélation, et se révéler lui-même à nous, alors cela jette dehors toutes les choses du monde. Maintenant, pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous, maintenant commençons le 4e chapitre. Craignons donc tant que la promesse d'entrer dans son repos subsiste. Maintenant, rappelez-vous, quand ils étaient en route vers le repos, la colonne de feu les conduisit. Maintenant, nous voulons trouver qu'est-ce que ce repos. Craignons donc tant que la promesse d'entrer dans son repos subsiste. Regardez. Que personne parmi vous ne paraisse ne pas atteindre cela. Maintenant, voici la promesse. Voici ce dont nous devons avoir peur. S'il n'y a pas une promesse laissée pour nous, mais il y a une promesse. Et alors la prochaine chose, ne prendre à Dieu à envoyer un libérateur, le Saint-Esprit. Et nous s'abdit leur pas. Ils virent les miracles de Moïse. Ils dirent, ce n'est pas mal. Et ils passèrent dessus. Et ils le virent faire des miracles. Peut-être qu'ils virent la colonne de feu qu'ils ont entendu parler. Oh, c'est très bien. Mais cela n'était pas mélangé avec une foi personnelle, car aussitôt qu'ils arrivèrent dans le désert, ils, chacun d'eux, commencèrent de murmurer. Et Dieu dit, parce qu'ils ont douté, c'était un péché. Ne doutez de rien. Croyez. Ne doutez pas. Qu'importe combien le cas est dur, croyez-le. Maintenant, ils commencèrent de murmurer et Dieu les renversa. Et alors, il jura dans sa colère qu'il n'entrerait jamais dans son repos. Et la Bible dit ici, je crois que c'est au 3e chapitre, que leurs carcasses tombèrent dans le désert. Le 3e chapitre est le 17e verset. Et contre qui fut-il indigné 40 ans durant, sinon contre ceux qui péchèrent et dont les cadavres tombèrent dans le désert? Et de tous ceux qui sortirent d'Égypte, seulement 2 arrivèrent dans la terre promise. De tout le monde antidéluvien dans les jours passés, il y eut 8 âmes de sauvées sur des milliards. Étroite est la porte, et resserré le chemin, et peu sont ceux qui le trouvent. Des gens disent alors, « Mes frères Branham, et tous ces milliers qui, selon la Bible, doivent apparaître là !» Rappelez-vous simplement combien moururent dans chaque génération qui étaient des chrétiens, tout au long des âges. Ils ressusciteront tous pour former le corps. Vous espérez qu'il y en aura 100 milliards qui sortiront de cette Amérique ou quelque autre, de ce monde d'aujourd'hui. Il se peut qu'il n'y en ait pas 50 qui en sortent. Mais la grande Église rachetée est couchée dans la poussière, attendante. Ce sont les joyaux de Dieu. Ils se reposent dans la poussière, mais leurs âmes sont sous l'autel de Dieu. Ils ne sont pas dans leur juste condition. Ils sont vraiment dans un corps, mais une théophanie. Et ils crient à Dieu, encore combien de temps? Ils peuvent se voir l'un l'autre, mais ils ne peuvent pas serrer la main dans cette sorte de corps. Vous rencontreriez votre maman dans la gloire ce soir, si vous deviez y aller, mais vous ne pourriez pas lui serrer la main, car elle n'a pas cette sorte de main. Vous ne pourriez pas la sentir comme vous sentiriez maintenant, car il y a 5 sens qui ont été mis dans ce corps pour le contrôler. Sa présence serait sentie, mais dans une atmosphère différente. C'est comme un homme et une femme. Il n'y aura pas de mariage de personnes ou des personnes données en mariage au ciel. Pourquoi? Parce qu'il y a une autre sorte d'amour. Il n'y a pas de désir sexuel. Toutes ces choses sont passées. Vous êtes lavés et purs, mais vous n'avez jamais vécu dans cette condition. C'est pourquoi vous n'avez pas été créés pour cette condition. Vous attendez simplement là, mais vous êtes impatients de revenir à ce que vous avez été créés un homme et une femme. Et là, Dieu ressuscitera ce corps de la poussière de la terre et il va le glorifier. Alors, vous verrez, goûterez, toucherez, sentirez, entendrez et serez associés. Nous ne saurons jamais, nous ne pourrons jamais apprécier la vie d'un ange. Nous n'avons pas été créés anges. Dieu a créé des anges, mais il nous a créés, vous et moi, hommes et femmes. C'est dans la condition que nous serons pour toujours, à sa venue bénie. Maintenant, voyez comment ils arrivèrent trop tard. Parce qu'ils péchèrent, ils arrivèrent trop tard pour la gloire. Dieu leur montra la colonne de feu, il leur montra des signes, il leur montra des miracles, il les conduisit hors de là, il les amena à la tentation pour les essayer et les éprouver. Maintenant, n'avez-vous pas eu beaucoup de tentations? Ne vous plaignez pas d'elles, réjouissez-vous, Dieu est avec vous, il essaye d'éprouver votre foi. Regardez à Job dans l'Ancien Testament quand Dieu dit, il dit, « As-tu considéré mon serviteur Job, un homme juste, un homme parfait? Il n'y en a aucun comme lui sur la terre. »« Oh, dit-il, certainement, tu l'as tellement entouré. Il n'a aucun problème, il n'a aucun souci, il n'a pas de problème financier, tout est très bien, il n'a aucune maladie, pas de souffrance. Laisse-moi le l'avoir un petit peu, je le ferai te maudire en face. » Dieu dit, « Il est dans tes mains, mais ne prends pas sa vie. » Oh, il a tout fait, sauf prendre sa vie. Mais il ne pouvait pas bouger Job. Job savait qu'il restait juste sur la parole. C'est juste. Et tous les diables de l'enfer ne pouvaient pas le bouger, car il savait qu'il avait offert ce sacrifice. Il était juste, et ils l'accusèrent, dire, tu as péché Job, et Dieu te punit. Il savait que Dieu n'avait pas, qu'il n'avait pas péché devant Dieu. Il savait qu'il était juste. Pas parce qu'il était un homme bon, mais parce qu'il acceptait l'offrande, brûlée à sa place. Et ce soir, nous savons que sa vie prouva qu'il était injuste. Et quand vous, n'essayant pas d'arriver à votre demeure de gloire parce que vous aidez votre voisin, c'est bien. Pas parce que vous joignez une église, ce qui est bien. Mais vous arrivez à votre demeure dans la gloire parce que vous acceptez la droiture de Jésus-Christ. Rien que vous ayez fait vous-même. Maintenant, comme nous continuons de lire. Car la bonne nouvelle nous a été annoncée, deuxième verset, aussi bien qu'à eux, mais la parole qu'ils avaient entendue ne leur servit de rien, car ceux qui l'entendirent ne la reçurent pas avec foi. La foi n'était pas en ceux-là qui entendirent la parole. Pensez seulement, aujourd'hui, dans l'humble petit ministère que le Seigneur m'a donné, il devrait y avoir 40 millions d'Américains sauvés ce soir. Vous savez ce qu'ils disent? C'est de la télépathie mentale, c'est un lecteur de pensée. Rien de telle sottise. Il n'appartient pas à notre Église, voyez? Ce n'est pas qu'importe combien vous vous appuyez sur la parole, éprouvez que c'est la parole de Dieu, que c'est la promesse de Dieu. Combien la science prouverait que c'est la vérité, ils ne veulent tout de même pas le croire. La Bible dit qu'ils ne le pouvaient pas. Vous dites, alors à quoi ça sert-il de la prêcher? Dieu doit avoir un témoin pour les condamner. Ce jour-là, la parole fut prêchée et prouvée au milieu d'eux, et ils continuent de s'éloigner dans leur ignorance. Il ne reste plus rien que le jugement. Dieu ne pourrait pas juger une nation justement à moins qu'elle n'ait la miséricorde avant d'avoir le jugement. Il est Dieu, il ne pourrait pas le faire. Maintenant, que disons-nous? Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos dont il est dit, j'ai donc juré dans ma colère, ils n'entreront certainement pas dans mon repos. Les œuvres de Dieu étaient cependant faites depuis la fondation du monde, car il a dit quelque part à propos du septième jour. Maintenant, je ne veux pas offenser le sentiment des gens contre leur religion. Ce n'est pas mon propos. Là-bas, dans le champ missionnaire, je prêche seulement la régulière grande doctrine évangélique et fondamentale. Mais au tabernacle, parmi mes enfants ici, il me semble que j'ai le droit de prêcher ce que je pense être la doctrine et la vérité. Vous voyez, je crois que c'est juste. Maintenant, j'ai des milliers de bons amis du sabbat, des gens qui sont les adventistes du septième jour. Certains de mes plus chers amis sont des adventistes du septième jour. Aussi, le grand mouvement de ce que vous appelez la voix de la prophétie, ils sont fermement contre moi. Ils disent que j'ai fait cette déclaration du pupitre et que j'ai dit que j'étais Dieu, et que la lumière qui suivait était un ange, et que j'étais Dieu, et que je suis venu en ce monde pour faire de grandes choses et pour prouver aux gens que j'étais Dieu. Maintenant, c'est ce que la voix de la prophétie a dit sur moi en Californie. Et sachez, qui que ce soit qui a dit cela, a dit quelque chose qui n'est pas juste. Mais en premier lieu, sans avoir des pensées contre les adventistes du septième jour, ou une autre église sabbatiste, mais seulement pour l'amour de l'Évangile. Car dans quelques minutes, nous en arriverons aussi aux pentecôtistes. Oui, c'est vrai. Sur les baptistes, nous allons aussi tomber et montrer que Dieu ne favorise aucune dénomination. C'est juste. Il ne favorise que l'individu. Et il ne traite pas avec des dénominations. Il ne l'a jamais fait. Il ne le fera jamais selon sa parole. Mais il traite avec des individus dans chaque dénomination. Oui, c'est avec des individus que Dieu traite. Maintenant, écoutez cela très clairement, et si jamais, n'importe quand, cette question vous est posée, cela sera réglé, maintenant que le Seigneur nous aide. Maintenant, attentivement, car, le quatrième verset, car il a dit quelque part à propos du septième jour. Maintenant, observez, il parle du sabbat. Combien savent que le mot S-A-B-B-A-T dans le, c'est un mot hébreu, qui veut dire R-E-P-O-S. Combien savent cela? En anglais, certainement. Sabbat n'a-t-il pas l'air d'être un drôle de mot? C'en est un. Sanctifier n'a-t-il pas l'air d'être un drôle de mot? Sanctifier est un mot grec. Sanctifier signifie être fait saint. En hébreu, ça signifie faire saint. En grec, cela signifie sanctifier. En anglais, cela veut dire faire propre. Le sabbat signifie un jour de repos. C'est ce qu'était le vieux sabbat, un jour de repos. Et quand vous voyez repos, cela signifie sabbat. Regardez-le dans votre manuscrit d'origine. Si vous avez par hasard une Bible grecque, et trouvez ici le mot. Si vous avez une Bible Scofield, regardez ce qui est écrit dans la marche du repos, et voyez si cela ne vous reporte pas au sabbat. Sabbat veut dire repos. Très bien. Maintenant, regardez. Craignons donc, alors que la promesse d'entrer dans son sabbat. Repos, maintenant. Beaucoup de gens gardent les jours, comme garder le jour du sabbat le samedi. Des autres font du dimanche une idole, un jour d'adoration. Et par la grâce de Dieu et par la parole de Dieu, Dieu m'aidant ce soir, je peux vous prouver qu'ils ont tort tous les deux. Les deux, les adorateurs du dimanche et les partisans du sabbat. Ils sont absolument tous les deux dans l'erreur, selon la parole. Et après tout, c'est d'après la parole que nous devons aller, pas parce que les adventistes disent, ou pas parce que les protestants disent, ou ce que les catholiques disent. C'est ce que la Bible dit. Maintenant, regardez. Car il a dit quelque part à propos du septième jour. Maintenant, nous allons mettre quelque chose comme cela et l'appeler le repos de Dieu, le septième jour. Maintenant, regardez. Et Dieu, écoutez l'écriture maintenant. Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le septième jour. Dieu avait un sabbat. Et ce septième jour fut long de 1000 ans, un type du millénium. Car il a dit, quelque part à propos du septième jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres. Le pronom personnel, toutes ses œuvres. Il se reposa le septième jour, c'est Dieu. Et de nouveau, dans ce passage, sous la loi, ils n'entreront certainement pas dans mon repos. Dieu se reposa physiquement, car il avait créé les cieux et la terre en 6 jours, et le 7e jour il se reposa de toutes ses œuvres. Il se reposa pendant 1000 ans, car la Bible dit qu'un jour sur la terre est 1000 ans au ciel, et 1000 ans au ciel est un jour sur la terre. Combien savent que l'Écriture dit cela dans 2 Pierre? Très bien. Dieu se reposa le 7e jour, et il en parla dans ce passage, à un certain endroit. Maintenant, écoutez attentivement. Car il a dit quelque part à propos du 7e jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Et de nouveau dans ce passage, la loi, ils n'entreront certainement pas dans mon repos. Il donna aux Juifs dans leur marche vers la terre promise, ou de l'Égypte vers la terre promise le 7e jour, le sabbat. Maintenant écoutez. Ainsi, puisqu'il est réservé à certains d'y entrer, et que ceux qui avaient reçu les premiers cette bonne nouvelle, le repos, Dieu leur donna la loi, et le sabbat fut le 4e commandement, n'y entrèrent pas à cause de leur incrédulité. Maintenant, regardez, ils parlent de la loi. Comment ils sont entrés? Ils n'avaient pas la foi, ils ne le gardèrent pas. Ils gardèrent le sabbat comme une commémoration, qu'ils allaient dans une terre de sabbat pour avoir le repos éternel de tous leurs problèmes et de tous leurs soucis. Plus de corvées, plus de nuits sans sommeil. Ils étaient en chemin vers la terre promise du repos, où coulait le lait et le miel. Les raisins étaient si grands que 2 hommes en portèrent une grappe sur leurs épaules. Oh, quel pays de repos béni! Mais ils n'y allèrent pas quand ils arrivèrent là à cause de leur incrédulité. Ils en furent détournés, alors qu'ils n'étaient qu'à 40 000 de la terre promise en quittant l'Égypte. Et il leur fallut 40 ans pour arriver là à cause de leur incrédulité. Dieu leur donna à leur prophète, lui donna son signe, lui donna la colonne de feu, montra des signes et des miracles, et leur prêcha l'évangile. Et ils coururent après les poissons et les pains, et ils tombèrent dans le désert, et leurs carcasses périrent dans le désert. Jésus, à la fontaine, il dit, nos pères mangèrent de la manne dans le désert pendant 40 ans. Il dit, je suis ce pain de vie qui vient du Dieu des cieux. Je suis le pain de vie. Moïse ne vous a pas donné ce pain. Mon Père donne ce pain. Et je suis le pain qui vient du Dieu des cieux. Si un homme en mange, il ne mourra jamais. Voilà la différence. Maintenant, ils dirent qu'ils burent du rocher dans le désert pendant tant d'années. Il dit, je suis ce rocher. Béni soit ton saint nom. Je suis ce rocher. Comment pouvait-il être ce rocher? Ce rocher était un rocher spirituel. Il suivit les enfants d'Israël. Et Moïse avait un bâton dans sa main qui était une verge du jugement de Dieu. Et Dieu lui dit de frapper le rocher. Et il frappa le rocher. Et quand il le fit, l'eau sortit du rocher. Et Christ était ce rocher. Et le jugement de Dieu, la punition du péché fut mis sur lui. Dieu fit en sorte de mettre sur lui toutes nos iniquités. Et cette iniquité fit éclater son cœur, et de son cœur le Saint-Esprit fut déversé comme des rivières d'eau à un peuple qui périssait et mourait. Je suis ce rocher qui était dans le désert. Alors, ils dirent, est-ce que tu veux nous dire que... Il dit, Moïse, celui qui vous a dit cela, il désira ardemment voir mon jour, et il le vit en partie. Et ils dirent, maintenant tu veux nous dire que tu es plus grand que Moïse, que tu as vu Moïse? Et Moïse est mort il y a 800 ans? Ils dirent, maintenant nous savons que tu es un démon. En d'autres mots, que tu es fou. Nous savons que tu es fou. Mais il dit, avant qu'Abraham ne fût, je suis. J'étais le grand je suis qui était dans le buisson ardent. J'étais cet ange qui était devant eux. Et il dit, je viens de Dieu et je retourne à Dieu. Et il vint de Dieu, il fut fait chair, il demeura parmi nous. Il retourna de nouveau dans cette même colonne de feu. Et le voici ce soir, après 2000 ans, le même hier, aujourd'hui et pour toujours, faisant les mêmes choses, conduisant ses enfants bénis. Et beaucoup tombent là à cause de l'incrédulité. Maintenant, il a dit, il fixa un jour, quand Dieu finit son travail, alors il fixa un autre jour. Et c'est sur cela qu'il devrait entendre et qu'il devrait venir. Il garde les sabbats et... il conserve les nouvelles lunes, et ainsi de suite. Voilà où les frères adventistes essayent de vous reporter. Mais continuons de lire, remarquez. Ainsi, puisqu'il est réservé à certains d'y entrer, et que ceux qui avaient reçu les premiers cette bonne nouvelle n'y entrèrent pas. Maintenant, le 7e verset. Oh, je dis que les Écritures sont mathématiquement inspirées. Je dis que l'Écriture est de toutes les manières inspirée, mais les mathématiques de la Bible sont parfaites. Savez-vous que les États-Unis ont le nombre 13 dans tout ce qu'ils font? Vous le savez. Ils ont été établis à la treizième colonie. Vous savez que le drapeau commence avec 13 étoiles. Vous savez que toutes les choses que les États-Unis font sont dans le nombre 13. Saviez-vous qu'ils sont apparus dans la Bible au chapitre 13 de l'Apocalypse? Certainement. La petite bête, l'agneau qui sort de l'eau, non pas avec une multitude de gens. Oh, pas de l'eau, mais de la terre où il n'y a personne. C'était deux petites cornes, les puissances civiles et ecclésiastiques. Et c'était un agneau, la liberté de religion. Et après un temps, ils se mirent ensemble, et il parla comme un dragon, et exerça toute la puissance que Rome a exercée avant lui. Cela arrive à notre nation. Notez-le. Observez la Confédération des Églises et les catholiques qui s'unissent ensemble. Observez ce qui arrive. Les gens que conduit la colonne de feu passeront certainement un moment difficile, mais à ce moment-là, ils sont prêts pour la translation. C'est juste, vraiment prêts à partir. Car l'agneau les a vaincus, dit la Bible, et ceux qui le suivirent furent appelés. Ils furent appelés les choisis et les fidèles, les élus de Dieu. Sortons de cette prophétie maintenant, afin que nous puissions avancer. Écoutez attentivement le 7e chapitre, le 4e chapitre, le 7e verset. 7 est le nombre de l'achèvement. 3 est le nombre de la vie. 7 est le nombre de l'achèvement. Et cela donne le sabbat complet. Et de nouveau, rappelez-vous, il parla, Dieu, sur cela. Alors il parla du point de vue de la loi sur cela. Et alors de nouveau, il fixe un jour, le 3e jour, la 3e fois. Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant bien longtemps après par la bouche de David, comme il a été dit plus haut, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Regardez, si Josué leur avait donné le repos, un sabbat, ils ne parleraient pas après cela d'un autre jour. La dispensation changea avec Jésus-Christ, de la loi à la grâce, des œuvres à la grâce, de quelque chose que vous faites à quelque chose que Dieu a fait. Sur vos mérites ou sur ses mérites, cela changea. Et quand Moïse sortit du désert avec la loi, il dit, « Vous ne devez pas commettre adultère, vous ne devez pas voler, vous ne devez pas tuer, sanctifiez le sabbat. » Quand Jésus vint du désert, quand Moïse vint, le diable tenta. Et aussitôt que le diable tenta, il s'enfonça dedans. Moïse avait un point faible. Combien savent ce que c'était? Un tempérament. Et aussitôt qu'il les vit adorer le veau d'or, il jeta les commandements, il les cassa, et vous montrant qu'une prêtrise serait cassée. Et Dieu les lui donna de nouveau. Mais quand Jésus sortit du désert, 40 jours de jeûne, il avait faim. Le seul point faible qu'il avait. Et le diable vint vers lui et dit, « Si tu es le Fils de Dieu, fais de ces pierres du pain, fais un miracle ici, laisse-moi te le voir faire et je te croirai. » Jésus dit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de chaque parole qui sort de la bouche de Dieu. » Il savait qu'il n'avait pas rencontré Moïse là, car il alla à la parole. Il le porta sur le pinacle du temple et dit, « Si tu es le Fils de Dieu, saute en bas !» Et il ne cita pas les Écritures. Non, il s'en moqua, il en fit une contrefaçon. Il dit, « C'est écrit, il donnera des ordres à ses anges, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Il te portera. » Mais Jésus vint directement à la parole et il le réprimanda. Il le prit sur la montagne, il lui montra les États-Unis, et l'Allemagne, et la Suisse, et toutes les nations du monde qui pouvaient exister. Et il dit, « Elles sont toutes à moi, avec elles je fais ce que je veux. » Ce n'est pas étonnant que nous ayons des guerres et des problèmes. Il dit, « Je fais avec elles. » Pas étonnant que les femmes s'habillent, et que la loi passe par-dessus. Ils sont tous gouvernés par le diable, c'est ce que la Bible dit. Satan dit, « Ils sont à moi, je fais avec eux ce que je veux. » Il dit, « Si tu m'adores, je te fais roi comme je suis. » Jésus dit, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur, tu serviras seulement ton Dieu. Arrière de moi, Satan !» Pourquoi ? Jésus savait qu'il entrait l'héritier dans ce grand millénium. quand son royaume viendrait. Il en sera sur la terre comme dans le ciel. Il n'y en aura plus qui porteront des shorts. Il n'y aura plus d'ivrogne. Il n'y aura plus de luxure. Il n'y aura plus d'adultère. Il n'y aura plus de mort. Il n'y aura plus de douleur. Il est l'héritier de toutes les nations. Elles sont à lui, c'est juste. Elles sont à lui et il en sera l'héritier. Mais Satan les a pour un certain temps, c'est-à-dire dans les jours que nous vivons. Mais il fixa un jour disant, aujourd'hui après tant de temps, n'endurcissez pas vos cœurs. En effet, si Josué leur avait donné le repos, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Mes frères adventistes, regardez cela. Paul dit ici, et Paul dit dans les Galates 1:8, si vous inscrivez les Écritures, Galates 1:8, si un ange du ciel vient vous prêcher un autre évangile que celui que je vous ai prêché, qu'il soit maudit. Paul dit, si Josué leur avait donné ce jour de repos, bien, regardez quand il revint de la montagne. Il descend alors, il a vaincu le diable, il est témoin, prêt pour son ministère. Il dit, vous les avez entendus dire, ceux des temps anciens, tu ne dois pas tuer. Mais je vous dis que quiconque est fâché contre son frère sans raison a déjà tué. Vous les avez entendus dire, ceux de l'ancien temps, en ce jour-là, ceux qui gardent le sabbat, vous les avez entendus dire, ceux des temps anciens, nous sommes sous la loi, tu ne commettras pas l'adultère. Pour être coupable, il devait y avoir un acte. Mais je vous dis que si quelqu'un regarde une femme pour la convoiter, il a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. C'est différent. Il sauta directement ce quatrième commandement. Mais leur donna-t-il le repos? Voyons ce qu'il dit. David dit, après un certain temps, repos parfait va venir. Dieu se reposa de ses œuvres le septième jour. Dieu bénit le jour du sabbat et le donna aux Juifs dans le désert. Ils entrèrent et ils tombèrent à cause de leur incrédulité parce que la parole n'était pas mélangée avec la foi. Et il fixa de nouveau un autre jour, disant à David, après bien longtemps, des centaines d'années après que David fut mort, le Fils de Dieu ressusciterait, qui est Jésus. Et s'ils veulent entendre ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Dieu parlera au cœur. Regardez maintenant, le 9e verset maintenant, pour ceux qui lisent. Josué leur aurait donné le repos, le 8e verset. Il aurait parlé d'un autre jour. Si il devait y avoir un sabbat, s'il devait y avoir un dimanche à garder, alors il en aurait parlé. Et s'il a dit, maintenant il n'y a plus de sabbat, plus d'observation du 7e jour, ce que je veux, c'est que vous gardiez le dimanche, il en aurait parlé. Paul le dit, il aurait dit, vous devez tous adorer le dimanche, ce sera le repos. Bien, s'il avait voulu qu'il garde le sabbat, il l'aurait dit. Continuez simplement de garder le 7e jour, mais maintenant je veux que vous gardiez le dimanche, le 8e jour. Non, il ne l'a jamais dit. Il a dit, si Josué leur avait donné un jour, ne leur en aurait-il pas parlé? Maintenant, le 9e verset, préparez-vous. Il reste donc un repos de sabbat pour le peuple de Dieu. Une observation du sabbat pour le peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose aussi de ses œuvres, comme Dieu se repose des siennes. Le voyez-vous? Maintenant, prenons quelques écritures pour appuyer ceci. Très bien. Quand Dieu fit le monde en 6 jours, il se reposa le 7e jour et il ne travailla plus jamais. Béni soit le nom du Seigneur. Il construisit le monde, il y plaça la création, il alla se reposer, et il ne revint plus jamais pour faire un autre monde. Il termina l'œuvre, et il alla se reposer. Maintenant, sur cela, après ces 1000 ans, alors le péché arriva. Alors le Christ fut présenté, l'agneau fut présenté. Maintenant les Juifs ont reçu ceci comme un type du repos du 7e jour. Maintenant il fixa un autre jour, disant dans David, après un si long moment, il vient à notre repos. Maintenant, quel est ce repos? Tournez avec moi Matthieu, le 11e chapitre, et la dernière partie du 11e chapitre de Saint Matthieu. C'est quand Jésus finit son sermon sur la montagne, et vous verrez ce qu'il dit. Il dit, quiconque regarde à une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Quiconque se fâche contre son frère sans raison a tué son frère. Toutes ces choses, mais il ne toucha jamais ce 4e commandement, ce sabbat. Maintenant, il est en train de terminer. Et le sabbat est la grande promesse de Dieu, c'est le repos. Maintenant, regardez, quand il eut terminé les béatitudes, il dit ici, le 27e verset du 11e chapitre de Matthieu, il enseignait les béatitudes dans le 5e chapitre. Tout m'a été remis par mon Père, Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Vous voyez, vous ne pouvez pas en connaître un sans connaître l'autre, car il est le Père manifesté en chair. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Il semble que les gens devraient voir cela sans argumenter, certainement. Dieu n'est pas trois personnes. S'il est trois dieux, alors nous sommes des païens. Lequel est Dieu? Les trois sont un Dieu. C'est trois fonctions du même Dieu. Il était le Père, dans la forme du Saint-Esprit, dans la colonne de feu dans le désert. Il était le Fils, quand il employa la filiation. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Je partirai, je reviendrai, serai avec vous, et même en vous, jusqu'à la fin du monde. Voyez, il est la paternité, la filiation et le Saint-Esprit aussi. C'est tout exactement le même Dieu œuvrant dans trois différentes fonctions. Paternité, filiation, Saint-Esprit. Jamais. 1 Jean 5,7 dit, « Il y en a trois qui rendent témoignage au ciel, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, et ces trois sont un. » Thomas lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela me satisfera. » Il dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas ?» Il dit, « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Et pourquoi dire « Montre-nous le Père ?» Maintenant, les unitaires prirent cela, le groupe des gens des unitaires, et ils essayèrent de faire du Père, Fils et Saint-Esprit, seulement une fonction et une place, comme votre doigt est un. C'est faux. Dieu ne pourrait pas. Jésus ne pouvait pas être son propre Père. S'il l'était, alors il était un. Mais comment pourrait-il être son propre Père? Et si Dieu est un homme, séparé du Saint-Esprit, il avait deux pères. Car la Bible dit que le Saint-Esprit couvrit Marie de son ombre, et elle fut enceinte. Et la Bible dit, dans Matthieu 1, 18, que cette sainte chose de qui elle était enceinte est du Saint-Esprit. Alors qui est son Père? Le Saint-Esprit ou Dieu? Les deux, le même esprit, ou alors il eut une naissance illégitime par deux esprits. C'est un dogme catholique, et cela n'a jamais été un enseignement de la Bible. Et Martin Luther l'apporta avec beaucoup d'autres catholicismes dans ce qui est l'Église luthérienne. Wesley continue avec cela, et cela continue toujours, mais c'est une erreur. Ce n'est pas la vérité, cela ne l'a jamais été, cela n'a jamais été une doctrine biblique, cela n'a jamais été un commandement dans la Bible d'enseigner trois dieux. Il y a un Dieu. Jésus dit, « Écoute, ô Israël, je suis le Seigneur ton Dieu. » Un Dieu, pas trois dieux. En Afrique, ils baptisent une fois pour le Père, et une fois pour le Fils, et une fois pour le Saint-Esprit. Et alors, un pauvre juif va par là, alentour, et dit, « Lequel de ceux-là est votre Dieu? Lequel est-ce? Le Père, le Fils ou le Saint-Esprit? » Mais tous ces trois sont un. La Bible dit qu'ils sont un. Jésus était une maison dans laquelle Dieu vivait. La Bible dit que 1 Timothée 3,16, en toute certitude, c'est un argument, le mystère de la piété est grand, car Dieu a été manifesté en chair, vu des anges, reçu haut, a été prêché, cru et élevé dans la gloire. Dieu l'a été. La Bible dit, son nom sera appelé Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. La Bible dit que Jésus, en lui demeurait toute la plénitude de la divinité corporellement. Comme nous l'avons vu l'autre soir, Dieu au commencement était esprit, et alors de Dieu sortit le Logos, ou la théophanie qui était une forme d'homme appelée le Fils de Dieu, préfiguré. Il vint sur la terre dans un corps de chair, même avant de venir en Jésus-Christ. Maintenant, avalez celle-là une fois, frère, je vais vous le prouver. Quand Moïse le vit, il dit, « Laisse-moi voir ta forme, Seigneur. » Et Dieu le cacha dans un rocher. Et quand il passa, il dit, « C'était le dos d'un homme. » C'était cette théophanie. C'est exactement, alors cette théophanie fut faite chair. Pas une autre personne, mais la même personne devait devenir chair pour prendre l'aiguillon de la mort. Comme une abeille quand elle pique, elle laisse son dard. Il ne laissa jamais cela. Il pouvait mettre un aiguillon dans la chair humaine parce que c'est le péché. Mais, frère, quand il piqua cette chair d'Emmanuel, il perdit son aiguillon. Oui, monsieur, il peut bourdonner, mais il n'a plus d'aiguillon. Ce n'est pas étonnant que Paul, quand il voulait lui trancher la tête, dit, « Ô mort, où est ton aiguillon? Tu peux bourdonner et murmurer autant que tu veux. Tombeau, où est ta victoire? » Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par Jésus-Christ. Vous y êtes. Il a fallu Dieu lui-même pour faire cela. Il vint et fut manifesté en chair. Il retourna de nouveau dans l'esprit. Vous dites, frère Branham, tu ne nous as pas encore dit quand Dieu s'est fait chair avant qu'il vienne dans le Christ. Quand Abraham était assis sous sa tente un jour, il vint deux anges et Dieu marchant à lui dans de la chair humaine. Ils avaient de la poussière sur leurs habits, ils étaient fatigués et ils s'assirent. Et Abraham sortit et il prit le veau de la vache et il le tua. Il fit des côtelettes d'agneau, il sortit et le prit. Et il demanda à Sarah de prendre du maïs pour le tamiser et faire une sorte de gâteau. Il prit du beurre de la vache et il prit du lait et il le prit là dehors et il s'assit et Dieu le mangea. Alléluia! C'est la raison. Ma foi regarde à toi, toi agneau du calvaire. Vous pensez que c'est une grande chose pour Dieu? Dieu qui fit toute la potasse, le calcium et tout dans le monde? Il descendit pour visiter Abraham. Il dit, tu penses que je veux te le cacher, voyant que tu es l'héritier du monde? Amen! Je ne te le cacherai point. Dieu prit simplement un. Nous sommes faits de 16 éléments. Il prit simplement de la potasse, du calcium, du pétrole, de la lumière cosmique. Il alla... Abraham souffle, note de l'éditeur. Saute là-dedans, Gabriel! Et voilà un corps. Abraham souffle, note de l'éditeur. Saute là-dedans, archange! Et il sauta dedans, deux anges du ciel. Et Dieu étendit la main et il en prit une poignée. Abraham souffle, note de l'éditeur. Il sauta là-dedans lui-même. Il descendit. Il avait faim. Béni! Que pensez-vous de cela, frère adventiste, qui ne voulait pas manger de la viande? Nous irons là-dedans dans un petit moment. Dieu tout-puissant Jéhovah, trouvez si ce même nom n'est pas traduit le même que celui qui était dans le buisson ardent. Alléluia! Et quand il se tint sur la terre, il dit, avant qu'Abraham ne fût, je suis ce même du buisson ardent. C'est juste Elohim. Vous voyez si ce n'est pas le même. Il était celui qui était dans le buisson ardent. Il était celui-ci, dans la présence d'Abraham, dans un corps de chair, qui mangea le veau et qui but le lait de la vache, et qui mangea le beurre sur le gâteau. Béni soit le saint nom de Dieu. Il marcha directement là en bas et dit, « Je ne partirai pas. » Et il avait son dos tourné, il dit, « Abraham, je vais te visiter, et tu auras cet enfant. Tu as 100 ans maintenant, et Sarah en a 90. » Et Sarah dans la tente se mit à rire. Il dit, « Qu'est-ce qui a fait rire Sarah ?» Derrière lui, la tente entre eux. Abraham dit, « Sarah, tu ris ?»« Oh non, jamais !» Il dit, « Si tu as ri !» Quelle sorte de télépathie était-ce? Quelle sorte de lettre de pensée était-ce? Il fait la même chose aujourd'hui. Il est Jéhovah Jiré, Jéhovah Rapha, le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il ne se trompe jamais. Regardez-le! Il se tient là! Il marche directement là! Il parle à Abraham et il disparaît à sa vue. Et le grand patriarche Abraham dit qu'il parla face à face avec Dieu. Elohim, le même Dieu. Vous comprenez? Pas trois personnes, frère. Trois fonctions de la même personne. Au commencement, il était le même. Il était cette grande fontaine d'esprit où toute la vérité, tout l'amour, toute la paix, tout ce qui était pur était dans cette fontaine. Cela commença par former un corps, une théophanie, la sorte de corps dans laquelle nous allons. Pas un corps glorifié, mais une sorte de corps angélique qui a une taille, une forme. Toutes les fois que je vois un arbre, je pense, cet arbre est un négatif. Il y a un positif quelque part. Cet arbre a été fait de quelque chose. Une intelligence l'a fait. Et tout ce que cette terre fait est de refléter le céleste. La Bible dit, et s'il y a un arbre ici qui doit périr, il y en a un dans la gloire qui ne périra pas. Si je vois un homme, je vois un charmant jeune couple, un homme et sa femme descendant dans la rue, amoureux ensemble, qu'est-ce que cela reflète? Béni soit le nom du Seigneur, il y a un ciel qui ne périra jamais. Si ce tabernacle terrestre est détruit, nous en avons déjà un autre qui attend, la théophanie. Alors, vous prenez la Trinité, le grand esprit demeurant dans le Fils Jésus, Jésus habitant dans l'Église. En ce jour-là, vous saurez que je suis dans le Père et le Père en moi et moi en vous. Tout ce que Dieu était, il le versa en Jésus. Et tout ce que Jésus était, il le versa dans l'Église. Vous y êtes. Moi dans le Père en moi, moi en vous et vous en moi. Voilà, voilà le corps. Voilà ce qu'il y a avec l'Église aujourd'hui. Ils ont été enseignés de malheureuses vieilles, petites doctrines de vieilles femmes en quelque sorte. Ils vont et ils ont des soupers de soupe, des parties de cartes. Ce n'est pas étonnant que nous ayons le tel chaos tel que nous l'avons. Nous n'avons pas besoin de programmes d'enfants et de petits soupers de soupe. Ce dont nous avons besoin, c'est d'un vieil évangile rude et des hommes de foi avec l'épée pendant là-dehors et jetant un défi. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, pas quelques malheureuses théologies et quelques théories faites de main d'homme, nous avons besoin du rude évangile prêché dans la lumière et la puissance et la démonstration du Saint-Esprit. Remarquez ici maintenant, comme il a dit, il fixa un autre jour, disant en David, si Josué leur avait donné le repos, ils n'auraient pas parlé d'un autre jour. Mais il demeure un repos pour le peuple de Dieu, car celui qui est entré dans son repos a cessé ses propres œuvres comme Dieu l'a fait des siennes. Maintenant, où allons-nous lire? Matthieu, le 11e chapitre, le 27e verset. Tout m'a été remis par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Vous voyez, ce n'est pas combien vous apprenez et combien l'évêque veut que vous sachiez, c'est combien Dieu veut que vous sachiez. Si vous ne pouvez pas voir la révélation, ne demandez pas à l'évêque, demandez à Dieu. Ne demandez pas au pasteur, demandez à Dieu. Le Fils le révèle. Il, pronom personnel. Écoutez, cela va vous choquer. Voici le commandement. Paul dit, s'il avait laissé un autre jour, il en aurait parlé. Mais voici ce qu'il dit. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le sabbat. Le repos. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est aisé et mon fardeau est léger. Regardez ce que Paul dit. Si Josué leur avait donné le repos, il aurait parlé d'un autre jour, mais il fixa un jour, disant, David, après si longtemps, quand vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Et il reste donc, écoutez maintenant le 9e verset, il reste donc un repos de sabbat pour le peuple de Dieu. Car celui, l'homme ou la femme, qui entre dans son repos, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos, se repose aussi de ses œuvres comme Dieu se repose des siennes propres. Vous pouvez avoir 20 ans, vous pouvez avoir 30 ans, vous pouvez avoir 50 ans, mais la minute à laquelle vous entendez la voix de Dieu frappant à votre cœur, ne l'endurcissez pas. Alors entrez, celui qui entend ma parole croit à celui qui m'a envoyé, à la vie éternelle, et il ne viendra jamais en condamnation, mais il est passé de la mort à la vie. Dites frère Branham, que se passe-t-il? Vous recevez le Saint-Esprit. Christ vient en vous. Est-ce juste? Tournez avec moi à Ésaïe, le 28e chapitre, et lisons. Ésaïe, le 28e chapitre. Voyons ce que le prophète en dit. Matthieu 28, en commençant au 8e verset. Voici la prédiction des derniers jours. Nous allons terminer dans une petite minute. Toutes les tables sont pleines de vomissements et d'ordures. Il n'y a pas de place propre. Laissez-moi m'arrêter ici pour une minute. Comme Ernie a dit l'autre nuit, il parlait à quelqu'un, Ernie Fandler, ce frère ici de la Suisse, il a dit, je me suis arrêté et je l'ai laissé absorber. Je veux que vous absorbiez cela. Il n'y a plus de place propre. car toutes les tables seront pleines de vomissements. Et comme un chien va à ses vomissements, et une truie à sa souillure, ainsi le peuple retourne. Que se passe-t-il avec vous, méthodistes? Vous aviez la lumière. Que s'est-il passé? Dieu l'a pris de vos mains. Il l'a donné aux Nazaréens. Que s'est-il passé avec vous, Nazaréens? Une fois vous aviez la lumière. Dieu l'a pris de vos mains et il l'a donné aux Pentecôtistes. Juste. Et vous, Église de Dieu, et le reste du peuple de la sainteté. Parce que vous avez rejeté la lumière. Vous vous êtes organisé dans une dénomination et vous dites, nous ne voulons pas croire plus que cela. Dieu est directement sorti et il vous a montré qu'il avait un peuple qui voulait le suivre. Et que vous est-il arrivé, Pentecôtiste? Vous aviez la lumière, Dieu vous l'a pris, la colonne de feu continue, toutes les fois, la colonne de feu continue. L'Église continue avec elle. Et quand Luther s'est organisé hors de l'Église catholique, sa propre Église, la colonne de feu continua et Wesley partit avec elle. Wesley s'organisa, il fit sa dénomination. Et la colonne de feu continua, les Nazaréens partirent avec elle. Les Nazaréens s'organisèrent, et l'Église de Dieu partit avec elle. Et ils dirent qu'ils n'étaient pas une dénomination, mais ils en étaient une. Alors, que s'est-il passé? La prochaine chose qui arriva, les Pentecôtistes virent le feu, et eux aussi s'en allèrent. Et que firent-ils? Ils firent une doctrine des langues, et s'organisèrent. Tout le monde devait parler en langue avant de recevoir le Saint-Esprit. Alors Dieu continua et il vous laissa assis où vous êtes. Que vous est-il arrivé, unitaire? Vous avez trouvé le baptême au nom de Jésus. Vous en avez fait une doctrine et vous vous êtes séparés du reste. Mais Dieu a continué et il vous laissa assis juste là, juste. Et que vous est-il arrivé, assemblée de Dieu, vieux concile général? Vous avez fait une organisation de votre Église. Mais Dieu continua, il vous laissa sur place. Maintenant, vous n'êtes rien qu'une bande froide et cérémonieuse, comme le reste des autres. Mais la colonne de feu continue d'avancer. Alléluia! Toutes les tables sont pleines de vomissements. Regardez au souper du Seigneur. Maintenant, à la place, ils prennent même une vieille miche de pain, et le pain doit être fait avec du pain sans levain. Et ils le donnent à des pêcheurs, des fumeurs de cigarettes, des prostituées, pour autant qu'ils aient leur nom dans le livre. Et vous, baptistes, vous l'appelez même la communion fermée. Maintenant, vous, baptistes, gazouillez un petit peu, et Dieu vous prendra votre klaxon. C'est exactement juste. Vous ne serez plus capable de le klaxonner. Communion fermée. Vous vous êtes séparés. Vous semblez être plus saints que vous ne l'êtes. Rappelez-vous ceci. Ceci est un tabernacle baptiste. Et ce que vous avez obtenu, vous vous êtes organisés. Oh, vous dites, nous ne sommes pas une organisation. Si, vous en êtes une. Certainement, vous en êtes une. Vous dites, nous sommes une fraternité. Oui, à n'importe qui entre et qui enseigne de la même façon que vous croyez, ça va bien. Mais vous ne le jetterez pas dehors, mais vous l'excommunierez de votre fraternité. C'est exactement juste. Oh, vous avez une façon de le faire. Ainsi, Dieu a aussi une façon de le faire. Mais l'Église de Dieu continuera. La colonne de feu n'est pas d'accord avec cela. Toutes les tables sont pleines de vomissements. Maintenant, écoutez, cela va vous choquer, juste une minute. Écoutez, comme je lis la parole, qui était le prophète Ésaïe. Toutes les tables sont pleines de vomissements. Ainsi, il n'y a rien de propre. Simplement, le chien mange ce qui est du chien. Ils viennent à l'église. Les femmes taillent, elles coupent leurs cheveux, elles mettent des shorts, elles sortent, elles voient les hommes descendre les rues. Entendant le gazon, les petites filles veulent entendre quelqu'un qui siffle, comme ce qui est appelé le sifflet du chien ou du loup. Vous savez? Frère Branham siffle, note de l'éditeur. Oh, vous croyez que vous êtes jolie, n'est-ce pas? Et vous les hommes, vous descendez la rue avec un cigare dans la bouche, et vous êtes du conseil des diacres, vous ressemblez à un bœuf du Texas sans cornes. Et alors, vous croyez que vous êtes quelqu'un? C'est exactement juste. Ce n'est pas étonnant que toutes les tables, vous montez, vous prenez la communion et vous agissez comme si vous étiez quelqu'un, et vous trompez, vous volez, vous mentez pendant la semaine. Que se passe-t-il avec vous? Toutes les tables sont pleines de vomissements. Oh, je prends le souper du Seigneur, certainement, nous le faisons dans notre Église. Jésus a dit qu'il nous ressusciterait au dernier jour si nous prenions le souper du Seigneur. Mais celui qui mange et boit indignement, mange et boit une condamnation contre lui-même, ne discernant pas le corps du Seigneur. Pour cela, beaucoup sont malades et faibles parmi vous, et beaucoup sont morts. Vieille, morte, église formaliste, l'Esprit de Dieu est sorti du milieu de vous, la colonne de feu n'est plus là, vous niez la guérison divine, vous niez la résurrection. Oh, vous dites, oh, il est ressuscité des morts, historiquement. Mais que pensez-vous de lui, étant le même aujourd'hui, s'il est ressuscité des morts? Vous dites, ah, ce n'est pas comme cela. Maintenant, là, vous y êtes. Vous avez la résurrection de la manière que vous la voulez, mais Dieu l'a de la manière qu'il le veut. Mais la chose est que la Bible dit, ce que nous savons être la vérité, qu'il confirmerait la parole. Et ces choses que je fais, vous les ferez aussi. Et je serai toujours avec vous jusqu'à la fin du monde, Jésus-Christ le même, hier, aujourd'hui et pour toujours. C'est ce que la parole dit. Maintenant, qu'est-ce que le sabbat? Toutes les tables sont pleines de vomissements et pas une de propre. À qui enseignera-t-il la connaissance? Pas la connaissance du monde, la connaissance spirituelle. À qui enseignera-t-il la connaissance? À qui fera-t-il comprendre la doctrine? Oh, béni soit Dieu! Notre organisation ne croit pas cela. Il ne serait pas d'accord avec cela. Ne vous souciez pas de ce que votre organisation croit, mais de ce que la parole de Dieu dit sur cela. Oh, mais nos pasteurs, vous savez, ils ont de l'éducation. Certainement, ils ont tellement d'éducation qu'ils ont laissé Dieu de côté. Vraiment, vous pouvez leur dire la parole, et ils marcheront autour et ils diront, « Bien, je ne le crois pas exactement de cette manière. Oh, poule mouillée, laissez-moi vous dire. Regardez ici. À qui peut-on donner la doctrine? Est-ce à des enfants qui viennent d'être sevrés, qui viennent de quitter la mamelle? » L'autre jour, un de mes voisins est venu et il m'a dit, « Billy, un certain pasteur ici dans la ville, la plus gentille personne que vous ayez jamais vue. » Il dit, « Ma femme et moi étions assis en pyjama, vers minuit, et ce petit pasteur est entré et il a bu du café avec nous. Il alla aussi à la maison des voisins et il leur a serré la main. Ils étaient justement en train d'avoir une petite partie de cartes, et il s'assit et joua aux cartes avec eux. Il me dit, « Oh, il est le gars le plus sociable que vous ayez jamais vu. » Il dit, « Oh, nous l'aimons, nous ne voudrions pas nous en défaire pour rien du tout. » Je restais là un petit peu, je pensais, « Bien. » Il dit, « Ne pensez-vous pas que chaque église a besoin d'un homme comme cela ?» Je ne pouvais pas répondre à cela. Il dit, dans un autre petit endroit, il dit, ils avaient une si belle place. Ce ministre et sa femme, des gens charmants, ils allèrent et ils s'occupèrent tellement des enfants jusqu'à avoir une école biblique. Il dit, ils en avaient tellement que la chose débordait d'enfants. Il dit, il peut raconter toutes sortes de belles petites histoires aux petits-enfants. Je dis, c'est gentil, c'est vraiment gentil. Je rentrais, je viens justement du Canada et je pensais, me voici ici. Oh, peuple, que se passe-t-il avec moi? Je ne fais pas cela. J'allais laver ma voiture. Je pensais, Dieu, je deviens vieil homme et me voici. Et je pensais, j'ai pleuré, j'ai imploré, tout ce que je reçois, c'est un grand blasphème. Peu importe. Laissez quelqu'un dire quelque chose de mal contre vous. Oh, le vieux bigot, quelque chose comme cela. Et je pensais à cela. Et une voix vint à moi et me dit, c'est juste pour ces hommes de faire cela, mais je ne t'ai pas appelé pour faire cela. Je t'ai appelé pour prendre l'épée et te tenir là comme Josué et jeter le défi, frère. Ne te mêle pas avec quelque vieille société et quelque organisation d'église. Mais défie le diable, tiens-toi au front, rends ce qui est juste, juste, et ce qui est faux, faux, prêche la parole, et trouve qui a la foi de la croire, porte-la là-bas. Je commençais de me dépêcher, en lavant cette voiture, et je disais, merci Seigneur, merci Seigneur. Alors, je me suis senti bien. C'est très bien, Seigneur, tu la serrerais un peu plus fort, je veux mourir avec l'épée dans mes mains. À qui puis-je faire connaître la doctrine? Écoutez, les tables sont pleines de vomissements. Ceux qui viennent d'être sevrés et qui viennent de quitter la mamelle, maintenant regardez, car c'est précepte sur précepte sur précepte, règle sur règle, un peu ici et un peu là. Eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l'Éternel parlera à ce peuple. Il lui disait, voici le repos, laissez reposer celui qui est fatigué, voici le lieu du repos, mais ils n'ont point voulu écouter. Et pour eux, la parole de l'Éternel sera, quelqu'un l'a prêché, précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là, afin qu'en marchant ils tombent à la renverse et se brisent, afin qu'ils soient enlacés et pris. Quel est le repos? Quand le repos est-il venu? Quand les gens parlaient en d'autres langues et qu'ils avaient des lèvres balbutiantes. Des lèvres balbutiantes. Ils ne disaient rien. Ils balbutiaient. Et quand cela arriva-t-il? Au jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est venu, c'est le repos, le Saint-Esprit. Jésus a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et lourdement chargés, et je vous donnerai le repos, je vous donnerai la vie éternelle, Zoé, la vie même de Dieu. Dieu viendra en vous, il sera une partie de vous, il vous donnera une naissance, et il fera de vous un fils et une fille. » Regardez, maintenant, c'était le troisième repos qu'il donna. Le premier, Dieu le reçut de son œuvre. Le deuxième, Israël le reçut dans la loi. Le troisième, l'Église le reçoit comme une partie de Dieu. Trois est le nombre de la vie. Combien savent cela? Toutes les fois que vous voyez trois, c'est la vie. Remarquez, quand Dieu créa la terre au troisième jour, ce fut la vie. Combien savent cela? Le troisième jour, la vie vint le troisième jour de la création. La Trinité. Le Père était au-dessus du peuple, dans la colonne de feu. Le Fils était un homme qui parla au peuple et le prépara. Le Saint-Esprit est le troisième stade. Ce qui est le Saint-Esprit, Dieu dans le peuple. Vie, Père, Fils, le repos de Dieu, le repos d'Israël est le repos de l'Église, l'observation du sabbat. Ainsi, si vous n'avez pas encore reçu le Saint-Esprit, vous n'êtes jamais entré dans le repos de Dieu. Vous n'avez pas besoin de dire, « Oh, je ne pourrais pas, je veux fumer, je ne pourrais simplement pas le faire, je suis un chrétien. Je ne veux vraiment pas boire, mais je suis un chrétien, je ne peux simplement pas. Je ne veux pas boire, mais j'aimerais le faire. » Si vous courez après des femmes, si vous faites toutes ces choses abominables, vous n'avez encore jamais atteint cette période de repos. Vous n'êtes jamais entré dans votre repos. Et quand vous entrez dans ce repos, vous cessez vos propres œuvres terrestres comme Dieu l'a fait. Pourquoi? Vous êtes une partie de Dieu. Vous vous reposez éternellement. Vous y êtes. C'est le sabbat. Venez à moi, vous tous qui peinez. Aujourd'hui, il fixa un certain jour, après si longtemps, en David. Quand vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Encore seulement un ou deux mots de plus ici maintenant. Écoutez attentivement. Car celui qui est entré dans le repos de Christ, venez à moi vous tous qui peinez et êtes lourdement chargés, vous avez cessé vos propres œuvres comme Dieu l'a fait des siennes le septième jour. Vous pourriez être dans la 30e année, la 40e année, la 5e année, quoi que ce soit, vous avez cessé vos œuvres comme Dieu l'a fait des siennes. Éternellement, vous ne voulez plus les choses du monde. Le monde est mort pour vous. Bien, maintenant le 11e verset maintenant, attentivement. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos-là. Pas celui-ci, mais celui-ci, afin que personne ne tombe en suivant le même exemple d'incrédulité. Qu'est-ce que c'est? La colonne de feu est ici. L'ange du Seigneur est avec nous. Il fait exactement les mêmes choses qu'il a dit qu'il ferait. Et le peuple trébuche et dit, « Maintenant, ah bien, je pense que c'est bien, ce n'est pas mal, je pense que ça va. Faites attention de ne pas tomber dans le même piège d'incrédulité. Vous le prenez avec tout votre cœur. Regardez, car la parole de Dieu, pas la doctrine de l'Église, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus acérée qu'aucune épée à double tranchant. Écoutez, elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Et écoutez, elle juge des sentiments et des pensées du cœur. Qu'est-ce que c'est? Le Saint-Esprit peut venir et dire, vous avez une telle et telle chose, et vous avez fait ceci, et avez fait cela, vous avez cette sorte de maladie et cela, si vous mettez cela en ordre, vous ferez cela. Voyez, discerner les pensées. Et les gens disent, qu'est-ce que c'est? Mais c'est de la télépathie mentale. Mais c'est un diseur de bonne aventure. Voyez ce que je veux dire? C'est un vieux monde méchant et adultère qui ne connaît pas Dieu. C'est plus rapide, plus dur, plus puissant qu'une épée à double tranchant. Et cela discerne les pensées et les intentions du cœur. Maintenant, qu'est-ce qui connaît les intentions du cœur? Dieu, vous dites. Bien, la Bible dit la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu, c'est Dieu. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et la parole fut faite chair et habita parmi nous. Dieu discerne les pensées. Abraham avait son dos tourné, et ainsi que Dieu avait son dos tourné à la tente, et Sarah rit. Et Dieu se retourna et dit, pourquoi Sarah a-t-elle ri? Quelqu'un qui discerne les pensées du cœur. Je veux laisser tremper cela un petit peu. Frère Branham, c'est une pause, note de l'éditeur. Alors, quand une telle sorte de ministère se lève, ce que Dieu promit dans les derniers jours, que se passe-t-il? Télépathie mentale. N'ont-ils pas appelé le Seigneur lui-même Belzébul? Il dit, s'ils appellent le maître de la maison Belzébul, combien plus appelleront-ils ses disciples? Je vous aime. Cela montre que vous êtes suffisamment intéressés. Et que vous n'avez pas besoin de venir dans un bâtiment à l'air conditionné pour écouter l'Évangile. Vous avez assez faim pour venir à un endroit comme celui-ci. Dieu ne nous laisserait jamais bâtir quelque chose d'autre que ceci. Nous l'aimons de cette manière. Simplement une vieille petite cabane, mais c'est de la façon que nous l'aimons. Dieu n'habite pas dans une beauté charmeuse. Dieu habite dans l'humilité. Nous l'aimons comme cela. Nous sommes heureux de venir, et vous l'êtes aussi. Pour vous tenir dans un endroit comme ceci. Qu'importe combien il fait chaud, combien vous transpirez dans votre nouveau complet, votre nouvelle robe, cela ne fait aucune différence. Vous écoutez la vie éternelle, la parole de Dieu qui connaît les pensées de votre cœur. La colonne de feu qui se tenait sur les enfants d'Israël se tient ici ce soir. Je pourrais jeter un défi. Il n'y a aucun homme qui pourrait se tenir ici sous la puissance du Saint-Esprit sans que Dieu ne le renverse et lui dise ce qu'il était. Juste, vous y êtes. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est le même Esprit qui conduisit les enfants d'Israël à leur repos. Mais ils tombèrent à cause de leur incrédulité. Ne tombez pas, c'est la dernière chance. Père, Fils et Saint-Esprit, la vie viennent au travers de cela. Justification, Martin Luther, toujours une forme de religion. Sanctification, Martin Luther. John Wesley, le baptême du Saint-Esprit, la vie. Justification, c'est de croire. Sanctification, c'est le nettoyage. Le Saint-Esprit, c'est le remplissage. La vie, pas au travers de l'âge Luther. Il l'avait dans une forme. Pas au travers de l'âge Wesley, il l'avait dans une forme. Mais c'est l'âge où le Saint-Esprit vient lui-même. Et si vous ne l'avez pas reçu, comment vous pouvez-vous croire au miracle? Il faut que Dieu soit en vous pour que vous croyiez. Vous agissez comme Dieu, vous connaissez comme Dieu, vous pensez comme Dieu. La Bible dit que vous êtes de petits dieux amateurs. Jésus l'a dit, car vous êtes une partie de Dieu. La même chose que je suis un petit Branham, et que vous êtes un petit, quoi que vous soyez, et parce que vos parents ont ce nom-là. La nature que vous avez, c'est parce que vos parents sont comme cela, car vous êtes nés d'eux. Et la raison pour laquelle vous croyez en Dieu et croyez aux miracles et aux signes et aux miracles, c'est parce que vous êtes des fils et des filles de Dieu. Vous recevez la vie. La vie vient dans le droit. Très bien. Est-ce que Jésus était sur la montagne? Partout où il allait, il prit Pierre, Jacques et Jean, trois témoins. Trois est le nombre de la vie. Vous comprenez? Amour, joie, paix. Maintenant, dépêchons-nous jusqu'à la fin du chapitre. Lisons rapidement. Car la parole de Dieu est plus efficace, plus puissante que une épée à deux tranchants, et discernant même les pensées du cœur. Il n'y a aucune créature qui soit cachée devant lui, tout est mis à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Frère, il n'y a pas une mouche qui pourrait se poser sur un poteau sans qu'il le sache. Toutes choses sont à découvert. Frère, il sait toutes les choses que vous avez faites, toutes pensées que vous avez eues. Voilà ce qu'il est. Nous le croyons comme cela. Et quand Dieu vient en nous et nous place dans l'Église, il met des dons et des choses dans l'Église pour manifester son être. Si Dieu est ce Dieu infini, alors il guérit les malades. Il peut ressusciter les morts, il peut purifier les lépreux, il peut rendre la vue aux aveugles, il peut donner des visions, il peut faire toutes sortes de choses, œuvrant à travers son Église, parce que c'est Dieu en vous. Voilà l'Église. Comment cette Église devient-elle une Église? En se joignant à elle? Non, monsieur. En vous serrant la main? Non, monsieur. Par l'eau du baptême? Non, monsieur. En devenant un membre? Non, monsieur. Comment le recevez-vous? Car par un esprit, nous sommes tous baptisés dans un corps. Vous y êtes. Romains 8, 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation? Pas de condamnation terrestre. Ils ne peuvent vous accuser de rien. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Vous y êtes. Voilà comment juger votre christianisme. Voilà comment savoir que vous êtes entré dans ce repos. Le monde ne vous tracasse plus, certainement. Vous le voyez, éloignez-vous de cela. Vous pensez à quelque chose de mieux. Vous y êtes. Pas de condamnation. Voilà comment nous arrivons dans le corps. Et vous êtes en sécurité pour toujours. La Bible le dit. Regardez ici dans les Hébreux, le 10e chapitre. Il dit... Car là où il y a des offrandes de bœufs et des sacrifices, on rappelle chaque année le souvenir des péchés. Mais cet homme, par un sacrifice, oh béni soit son saint nom, car par un sacrifice, il a rendu parfaite à perpétuité. Alléluia! Pas jusqu'au prochain réveil, mais pour toujours. Les anciennes choses sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Nous marchons dans la lumière, la magnifique lumière. Les oiseaux chantent différemment. Me tenant ici, regardant à cette petite alcoolique, je pense qu'il y a environ 5 ans, Rosella, les yeux aussi vitreux qu'une chauve-souris, descendant les rues de Chicago, ivre, titubant, marchant dans toutes les sortes de péchés qu'il y a, ivre, et dans toutes les choses où elle pouvait être. Et un soir, le Saint-Esprit, qui est plus rapide que, plus puissant qu'une épée à double tranchant, dit « Femme, tu es une alcoolique. Alléluia !» Si ce n'est pas le même Dieu qui était là-bas, qui savait que Sarah arrive derrière lui, je ne sais pas ce qu'il est. Et là, dans l'auditoire, à une autre petite femme, elle alla, elle l'amena là, il dit « Tu es une droguée !» Comme il est Dieu, Jésus le Fils de Dieu, tenons fermement la confession de notre foi. Non. Mais quand vous dites, oui, mon Seigneur, j'entends ta voix,
Je n'endurcis pas mon cœur. Cela m'est égal, Seigneur. C'est ta parole, et je te crois. Prends-moi, Jésus, tel que je suis, sans aucun recours, sinon ton sang qui a été versé pour moi. Et alors, je promets que je te croirai. Ô agneau de Dieu, je viens. Mettez vos mains sur sa tête mourante. Dites, Seigneur, je suis un pécheur et tu m'as appelé. Tout ce que le Père m'a donné viendra à moi et je le ressusciterai au dernier jour. Oui, Seigneur, je viens. Je n'endurcis pas mon cœur comme ils l'ont fait pendant la provocation. Je crois vraiment. Alors, que va-t-il faire? Il vous donne sa vie, Zoé, la vie éternelle. Et si Dieu peut nous ressusciter de la poussière de la terre d'où nous venons, venons-nous de la poussière? Tout ce que vous voyez vient de la poussière. Et si Dieu peut faire de moi ce que je suis aujourd'hui, sans avoir aucun choix, seulement parce que son désir fut de me faire et de me donner l'opportunité de faire face au calvaire et prendre ma décision, et j'ai pris ma décision et j'ai cru en lui, combien plus me ressuscitera-t-il? S'il m'a fait ce que je suis sans choix, alors j'ai fait un choix et je l'ai pris à l'intérieur. Quand il posa ses mains par lui-même et jura par lui-même qu'il me ressusciterait au dernier jour, je me repose, confiant que j'ai le repos, pas parce que j'adore le dimanche, pas parce que j'adore le sabbat, cela n'a rien à voir avec cela. J'adore parce que je suis entré dans sa paix et repos. Paix, repos, amour, joie, laissez la tempête se déchaîner, mon ancre tient bon. Avez-vous cette expérience ce soir, mon ami, qui vous tenez ici dans ce chaud tabernacle? Vous n'êtes pas venu pour m'écouter, non, vous êtes venu pour écouter la parole. Écoutez, mon ami, maintenant, si vous n'avez pas ce repos, vous pouvez le trouver juste maintenant. Vous n'avez pas besoin de venir ici à l'autel, restez juste où vous êtes. Soyez sincères et dites, Christ, parle simplement à mon cœur. Je sais qu'il fait chaud, je suis tout trempé, en sueur, je me sens affreux, mais Seigneur, il se peut que je transpire pire que cela avant demain matin. Le docteur pourrait secouer la tête et dire, c'est une crise cardiaque, il est parti. Alors quoi? Quoi alors? Quand le grand livre est ouvert, alors quoi? Vous avez entendu ce chant? Alors quoi? À ceux qui ont rejeté le message, il leur sera demandé de donner une raison. Alors quoi? Alors quoi? Pensez-y maintenant, vraiment profondément. Comme nous inclinons nos têtes, pensez-y. À celui qui rejette ce message ce soir, il lui sera demandé de donner une raison. Alors quoi? Alors quoi? Alors quoi? Quand le grand livre est ouvert, alors quoi? À ceux qui rejettent ce message ce soir, il vous sera demandé de donner une raison. Alors quoi? Notre Père Céleste, tout est dans tes mains maintenant. Voici le vrai sabbat placé devant les gens. Voici que l'ange de Dieu, durant les quelques dernières années, a soufflé autour du monde. Les critiques et toutes ces autres choses ont essayé de le condamner. Mais toutes les fois, tu as prouvé que tu étais Dieu. Le monde scientifique, le monde de l'Église, sont-ils aveugles, Seigneur? Peut-être y en a-t-il ce soir un ici qui aimerait recevoir la vue pour avancer et ne pas tenter Dieu comme au jour de la provocation, ne pas essayer de le tenter en étant bon le dimanche ou en gardant un certain jour ou un certain credo ou en appartenant à une certaine Église. Quelqu'un qui aimerait sortir et être circoncis du cœur et recevoir le Saint-Esprit. Et ils le veulent. Par la foi maintenant, ils essayent de l'accepter dans leur cœur. Ils essayent de trouver grâce devant toi, Seigneur. Oh, ils ont peut-être parlé en langue, ils ont peut-être crié, ils ont toujours le même vieux tempérament, ils ont toujours la même vieille malice. Ils bavardent toujours et parlent et font des choses qu'ils ne devraient pas faire. Ils ne veulent pas cela, Seigneur. Alors quoi, quand ce grand livre est ouvert? Mais tu as dit, ceux-là n'entreront pas dans le royaume. Alors soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Tout ce qui est en dehors n'entrera pas. Ont-ils vraiment toute la confiance ce soir dans le crucifié? Sinon, Seigneur, puissent-ils faire ce seul et éternel oui, juste maintenant? Dites, Seigneur, je, pas de l'émotion. mais je sens quelque chose au fond de mon cœur. C'est quelque chose qui me dit, je peux le faire juste maintenant par ta grâce, et je t'accepte maintenant comme mon sauveur personnel. Je rejette toutes les choses du monde, et je veux entrer dans ton repos, et je crois que je le fais juste maintenant. Je crois que le Saint-Esprit me conduit juste dans cet endroit. Alors que toutes les têtes sont inclinées, est-ce que quelqu'un ressent cela de cette façon maintenant? Levez votre main. Le Saint-Esprit me conduit maintenant à un endroit où je ne bavarderai plus. Dieu vous bénisse. Je ne veux pas faire les choses. Mon tempérament a disparu. Je peux vivre en paix et joie et patience dès maintenant. Je crois que Dieu me parle maintenant, que je peux le faire depuis cette heure par sa grâce. Voulez-vous lever votre main? Dieu vous bénisse. Dieu bénisse la jeune femme. Quelqu'un d'autre? Je crois maintenant. Ne le tentez pas comme dans les jours de la provocation. Ne pensez pas que parce que nous allons à l'église le dimanche ou que nous gardons le sabbat. Paul a dit, vous qui gardez les jours ou les lunes et, ou ainsi de suite, j'ai peur pour vous. La loi étant une ombre des bonnes choses à venir et pas la véritable image des choses, ne peut jamais rendre l'adorateur parfait. Mais Christ vous rend parfait, parfait à la vue de Dieu. Il enlève vos péchés, enlève votre condamnation, vous donne son amour et sa joie. Entrerez-vous dans le repos maintenant? Quelqu'un d'autre qui veut lever sa main et dire, je l'ai fait? Dieu vous bénisse, jeune dame, là-bas à ma gauche. Dieu bénisse l'homme assis à ma droite, entrant dans son repos, y pensant juste maintenant. Priez, tel que je suis, Seigneur, sans aucun recours. Je ne suis pas bon, je ne peux rien t'offrir, mais seulement ma vieille vie épuisée de pécheur. Veux-tu me recevoir, me nettoyer, me soulager? Parce que j'ai promis que je croirais, ô agneau de Dieu, je viens maintenant, croyant que maintenant je suis passé de la mort à la vie. Parce que, juste ici, sur mon siège, je t'ai accepté comme mon sauveur, et je sens la paix dans mon cœur. Il y en a cinq qui ont levé leurs mains. Un autre se sentirait-il comme cela? Levez votre main. Si vous n'êtes pas un chrétien, acceptez-le juste maintenant. Si vous professez être un chrétien et n'avez pas été de cette sorte de chrétien, vous êtes toujours un pécheur, qu'importe ce que votre vie, ce que vous avez fait ou comment vous essayez de vous rendre. Ce que vous faites n'est pas accepté, c'est ce qu'il a fait. Votre propre droiture ne sera pas acceptée. Si vous arrêtez de fumer seulement parce que vous dites, bien, j'ai meilleur temps d'arrêter de fumer parce que je professe le christianisme, Dieu ne l'accepte pas. Si vous arrêtez de convoiter les femmes seulement parce que vous vous forcez à le faire, Dieu ne l'accepte pas. C'est quelque chose que vous faites, ce sont des œuvres, mais c'est la grâce qui vous sauve. Est-ce que Dieu est venu vers vous et a sorti toutes ces choses hors de vous? C'est là la question. Vous dites, j'ai joint l'église et ainsi je devais laisser tomber ces choses. Dieu n'a pas accepté cela. Rien que vous puissiez offrir. Il accepte seulement ce que le Christ donne. Il vous donne la vie éternelle et prend cela de vous. Voulez-vous le recevoir? Sur la mer tumultueuse et orageuse, venez, ancrez votre âme dans le port du repos, et dites, mon bien-aimé est à moi, j'ai ancré mon âme. Très bien, vous qui avez levé vos mains, le message est fini maintenant. Maintenant adorez seulement. Je ne naviguerai plus sur les mers houleuses. La tempête peut balayer l'océan sauvage et tumultueux. En Jésus, je suis sauvé pour toujours. Tout le monde maintenant, en adoration. J'ai ancré mon âme dans un port de repos, le sabbat. Je ne naviguerai plus sur les mers houleuses. La tempête peut balayer l'océan sauvage et tumultueux. En Jésus, je suis sauvé pour toujours. Brille sur moi. Laissez-vous simplement aller. Fermez vos yeux. Ressentez-vous ce doux esprit? C'est l'adoration. Le message est terminé. C'est l'adoration. Que la lumière du phare brille sur moi. Ô, brille sur moi. Ô, Seigneur, brille sur moi. Que la lumière du phare brille sur moi. Combien se sentent vraiment bien? Levez vos mains. Cet esprit doux et humble, c'est cela. Être comme Jésus. être comme Jésus. Sur la terre, je désire être comme lui, tout au long du voyage de la vie, de la terre à la gloire, je demande seulement d'être comme lui. Adorer simplement.